Ok.
Oh, bim.
On n'est pas tout seul. Où, qui, comment, pourquoi?
Non, 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 t'es pas tout seul, man. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de monde autour de toi. Et c'est tout de suite dans Action.
Et viens de nous rejoindre avec nous, c'est Vincent voilà. Percevaux. De...
Coucou.
Pardon?
Coucou, bonsoir.
Bonjour.
Salut. De G4F Record.
Oui.
Alors, vous vous connaissez déjà?
Oui, oui, tous oui, les oui deux. Très bien. Ouais.
Toi aussi, j'imagine que tu as une grande histoire du jeu vidéo. Mais là, on a parlé de rétro gaming, mais aussi de rétro computing.
Exact.
Tu vois, j'essaye d'avoir le bon champ lexical. Et on va passer un peu dans le, du coup, dans le futur avec ce que tu nous proposes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous proposes exactement dans l'installation? On parle aussi de Doom.
Encore. Oui, bah, en fait, l'idée, c'était de rester dans le, hein, le thème de la soirée. Donc David amenait toute la série de Doom et Doom VR, donc en réalité virtuelle, venait de sortir cette année en fait.
Pour les 25 ans ?
Je ne sais pas si c'était vraiment pour les 25 ans, mais bon voilà, une version spéciale VR. Et je sais que l'équipe, parce qu'on a le setup au studio, et donc l'équipe avait vraiment bien trippé dessus. C'est des gros gamers et je les entendais hurler le midi en jouant, donc je me suis dit que c'était peut-être pas mal de l'amener à la soirée. Et de permettre aux joueurs de tester. La réalité virtuelle, c'est encore un petit peu nouveau, donc en plus, les gens ont envie de tester, quoi, de découvrir.
Alors ouais. L'installation ce soir, elle est comment exactement? Vu qu'on est à la radio, sur BIM-la radio, les gens ne voient pas ce qui se passe.
Donc... Alors fermez les yeux, mettez un casque. Non, mais c'est voilà, les casques de réalité virtuelle tels qu'on les voit. Donc là, c'est le, c'est une marque, voilà, HTC Vive. Bah, là, c'est le Vive.
Okay.
Voilà. Et bah, c'est un setup un peu nouveau dans le sens où on a mis en place un système pour streamer le joueur. Alors c'est là où ça se complexifie à la radio. Hein. Il y a un, il y a un fond vert, voilà, et on projette en post-production le joueur dans la scène virtuelle dans laquelle il est, parce que le problème de la VR, c'est que le gars est en train de triper tout seul avec son casque, mais on sait pas trop ce qu'il fait à côté, donc c'est vraiment pour visualiser, partager l'expérience qu'est en train de vivre la personne. Donc là, c'est une version à plat, il y a juste un fond vert, mais on a la version cage VR, avec une caméra qui en plus peut se déplacer dedans. Donc ça fait un peu une petite attraction. Alors c'est pas notre cœur de métier, hein. Nous, G4F Records, G4F c'est une société qui a 10 ans, qui fait du son pour le jeu vidéo, une société de production, de musique, bruitage, voix. Et Records, c'est le label, en fait, d'édition musicale. On kiffe Perturbator, parce qu'on a bossé sur la BO de Fury, en fait. Donc avec les collègues de la scène Synthwave, donc Carpenter Brut, local de l'étape.
Voilà, qu'on a cité tout à l'heure.
Voilà, Wave Shaper, Lorne,
Danger,
bien voilà. Je vais les oublier, les autres, mon Dieu. Qu'est-ce que
mais
j'en
y a aussi,
oublié,
autre genre. Que des groupes, tu travailles aussi avec des compositeurs?
Oui, alors on est, on a un pool de compositeurs, en fait. Donc on est à la fois label et puis agent de compositeurs. Donc c'est des compositeurs qui sont spécialisés dans la musique à l'image. Donc c'est des gens qui font essentiellement du jeu vidéo parce que voilà, c'est notre cœur d'activité, mais qui font aussi du film, du docu, de la série d'anime, du film d'anime. Voilà, donc des gens qui ont l'habitude de travailler à l'image. Voilà.
Ouais, parce que j'imagine pardon, que pour la création musicale d'un jeu vidéo, c'est quelque chose qui est très spécifique.
Oui.
Il faut s'adapter à un rythme, à, voilà, à comment vous définissez le cahier des charges? Alors, ça dépend du type de jeu, ça dépend de...
Ouais, bah, y a... Alors, on peut faire beaucoup de parallèles avec le cinéma dans l'approche, c'est-à-dire qu'on a une direction artistique, on a un background, on a des références, donc déjà il s'immerge dedans. Ensuite, dans le cahier des charges, c'est, la grande différence, c'est que c'est le joueur qui donne le tempo. En gros, c'est lui qui déclenche la bande-son sur ses actions. C'est, on passe d'un format linéaire où le climax, on sait quand est-ce qu'il va être, donc on construit sa partition et sa composition pour amener la personne au climax. Dans le jeu vidéo, c'est le joueur qui décide quand est-ce qu'il va aller dans telle salle ou dans telle
salle. C'est ça, et puis donc les gens qui font la musique au cinéma, généralement, ont le film, voilà. Regardent le film.
Ils ont un support. Voilà.
Alors que là, il y a un mec qui joue et en même temps le mec qui écrit sa musique.
Donc le compositeur, il travaille avec... il prédit, en gros, il crée une partition prédictive, il prédit ce que va faire le joueur dans le contexte de jeu dans lequel il est, et donc c'est plus ou moins interactif, il y a des choses extrêmement linéaires ou des choses qui répondent très très vite, et donc c'est un exercice particulier parce qu'en fait il faut pouvoir passer à un instant T d'un loop à un autre, d'une harmonie, d'une compo à une autre, Et donc c'est un exercice vraiment particulier
plus
qui s'apprend.
Plus voilà. L'exercice de post-production, c'est-à-dire que
et après il y a l'intégration, ce qu'on appelle l'intégration dans les moteurs de jeu. Donc là, ici à Angoulême, il y a l'Engmin, l'école nationale du jeu. Voilà, c'est pour ça qu'on est là en fait. Et 5 ou 6 sound designers, ce qu'on appelle sound designers dans le jeu, qui sont des gens qui en gros prennent les sons ou les créent et puis les intègrent dans les moteurs de jeu qui sont des moteurs 3D. Type Unity, Unreal ou autre pour ceux qui connaissent, voilà. Mais c'est en gros c'est très très technique. C'est des gens, c'est que des bac plus 5 quoi. Voilà.
Oui, c'est des matheux.
Ouais. Hein. Ouais, c'est ça.
Moi, je voulais juste poser une dernière question à David avant de te libérer. Mm-hmm. Toi, la réalité virtuelle, le jeu Doom comme ça, c'est quelque chose qui te parle ou tu te dis c'est
non, c'est nul.
Non, c'est pas ce que tout. Je veux dire.
Mais si, il va devoir avoir un HTC Vive dans 10 ans, ce sera vintage. Il faudra le mettre en place.
Du coup, ouais.
Il va galérer avec ses drivers et c'est pareil. Hein. C'est une évolution. Voilà.
Ouais. Non, mais ça m'intéresse aussi, mais j'avoue que j'ai pas encore essayé.
Ouais.
Donc,
allez, vas-y.
Voilà.
C'est l'occasion. Voilà.
Merci David en tout
et
cas.
Et vous a
merci,
parlé ouais. De ces lives ou pas?
Oui, on a parlé des lives.
Oui, on a parlé des lives.
Je veux pas faire sa promo, mais quand
non. Et
c'est gentil.
De ce fameux mix qui nous fait avec
Commodore,
les potes vieilles disquettes à l'ancienne.
Non, il nous en a fait un c'était à la Gamers Assembly l'année dernière.
Ouais.
Non, mais c'est top en fait. C'est faire revivre en plus des vieilles machines.
Et surtout avoir le son d'époque.
C'est ça,
le son d'époque. Parce que c'est vraiment le son du Commodore 64.
Sauf que c'est sur des sonos d'aujourd'hui.
Ah évidemment, ça rend pas la même chose, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on était habitué à ça, écouter sur le speaker mono de la télé ou de l'écran, donc ça donnait pas du tout la même chose. Quoi.
Et faire des musiques de jeux vidéo, t'as déjà eu l'occasion?
J'ai pas eu l'occasion.
Bah alors, attention.
On va réparer ça un jour.
T'as vu comment on envoie des perches
ouais, c'est,
non, mais c'est simple, il faudrait que l'univers musical de l'un rencontre un univers.
C'est comme ça que ça marche.
Hein, bah, bien sûr, ouais. Il suffit qu'il y ait un jeu qui se la veut old school, tu vois, vintage, sur lequel on pourrait retrouver sa musique.
Après, c'est vrai que dans les sets Commodore 64, on fait pas forcément. Les morceaux sont pas forcément que vintage, hein. Ça peut être des trucs, des styles de maintenant. Ça peut être du dubstep, des trucs comme ça.
Complètement.
Donc,
mais ça reste tout de même le son informatique créé à l'époque. Ce son 8 bits, voilà, qu'on définit par.
Ouais, mais
par
ça sonne pas forcément chiptune du tout. Hein.
Ouais.
Ça peut être vraiment très étonnant, quoi. Bon, c'est vrai que le Commodore 64 a des capacités, dire plus intéressantes que d'autres synthés de l'époque pour les ordinateurs. Donc on va plus loin avec celui-là, quoi. Ouais. Voilà.
Mamat.
Merci David.
Merci à vous.
Vincent, c'est pour te libérer parce que on veut pas te prendre toute ta soirée non plus. En tout cas, on a appris vraiment plein de trucs.
Ouais.
C'était hyper chouette.
Juste avant de te lâcher, est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut retrouver
Alors c'est pas compliqué, c'est davidbagel.com. C'est mon nom et mon prénom et mon nom.
Oui.
Donc voilà.
Et sur lequel on peut retrouver des photos d'expo.
Moi j'y suis allé, il y a plein de trucs à lire, plein de trucs à voir, c'est
bien.
Un truc de ouf.
Ouais,
j'ai dit qu'une infime parcelle de tout ce qu'il y a à voir et à lire.
Tu l'as rajouté
Oui, bah d'ailleurs il y a aussi toute une partie de construction que je fais, ça, je sais pas si tu as vu. Les Game Boy géantes jouables, il y a le bar top de ces messieurs de Double Kick Heroes là-bas aussi, c'est moi qui l'ai fait.
Ah oui, j'y ai joué, d'accord, ok.
Voilà.
Très bien.
Donc, tout ça, là, récemment, j'ai fait un flipper sur lequel on joue à un jeu vidéo de flipper, évidemment, qui à l'époque était sur Amiga et PC, mais qui marchait avec un scrolling vertical.
Ouais.
En fait, on voyait pas tout l'écran, on voyait pas toute la table.
Ouais.
Et là, je suis arrivé à faire une modification de l'émulateur DOSBox. Qui du coup fait afficher toute la table. Et du coup, là, pour le coup, on pouvait en faire un vrai flipper. Donc, ça, je l'ai présenté au Stunfest la semaine dernière à Rennes. Et dans le cadre d'un atelier sur le modding de jeu, donc les modifications de jeu. Et ça, ça en faisait partie du coup. Donc, voilà.
Eh bien, tu dois avoir de sacrées soirées, écoute, et de belles nuits devant toi. Tu dois bien t'occuper les week-ends aussi. Merci en tous les cas, David.
Merci à vous.
Nous avoir partagé cette passion. Après donc le vintage, effectivement, nous avons basculé donc dans la réalité virtuelle. Tu disais tout à l'heure que tu avais mené donc dans la continuité de cette exposition Doom ce jeu pour faire découvrir la réalité virtuelle. En même temps, pour découvrir ça, c'est quand même physique, violent, parce que j'ai croisé plein de gens avec des réactions. J'ai eu le vertige,
j'ai envie de vomir. C'est quoi les réactions des gens
Mais en fait, ça reste encore. Personne ne l'a encore dans son salon, en fait, donc ça reste encore une expérience un petit peu nouvelle. Mmh. Il y a la motion sickness dont tout le monde parle, qui est en gros l'effet que tu peux avoir quand il y a du lag, de la latence, en gros, sur les devices. L'HTC Vive est celui où il y a la plus faible latence actuellement avec le PSVR là, sur la PlayStation. Et on a quand même une sensation d'immersion et de réactivité qui fonctionne vraiment bien. Après, là, c'est des jeux complexes. C'est des jeux complexes à manipuler, en fait.
Ouais.
C'est pas le jeu parfait pour quelqu'un qui démarre. Là, faut quand même être aguerri.
Faut déjà être un petit peu initié.
On se téléporte plusieurs fois. Enfin, on se téléporte, en fait. On n'a pas un pad. On n'est pas en train de se déplacer.
Ouais, mais quand on se téléporte, visiblement, ça crée des sensations physiques.
Ouais. On a Adeline tout à l'heure qui nous a dit qu'elle a eu une sensation de vertige.
Oui.
Juste en se téléportant.
Oui.
Tout en ayant bien les deux pieds au sol.
Oui, c'est possible. Bah oui, on est vraiment immergé dans un monde virtuel. Donc
moi, j'y ai joué 7 minutes. Ouais, je suis sorti du truc. J'étais en sueur comme si j'étais Zidane. Quoi.
Oui, c'est bien.
T'as mis un coup de boule après.
Bam. Tu vois, non, j'ai le seul point commun que j'ai avec Zidane, c'est que je transpire. Tu vois.
Mais après, c'est des expériences. C'est le début, hein, c'est le démarrage. Il y a des jeux multijoueurs en casque, comme des laser games, ouais, en fait, où on joue à 8, en gros on est 8 dans une salle, et en gros le gros avantage de la réalité virtuelle, c'est que je peux les faire affronter un dragon, le coup d'après ils sont dans Star Wars, le coup d'après ils sont dans Doom, en fait il y a une rejouabilité complètement folle. On met une pièce vide, on met 5 personnes dedans et on les plonge dans un univers complètement dingue. Donc c'est sûr, c'est qu'on va avoir, il y a des multiplex qui s'ouvrent un peu partout aux US, Corée, etc. On commence à en avoir en France. Donc nous, on travaille un petit peu sur des projets comme ça. Le Futuroscope vient de faire sa première attraction avec Sébastien Loeb, là.
C'est ce que je voulais dire, voilà. Oui, effectivement. Ouais. À Poitiers, le Futuroscope est là pour normalement mettre en avant ces nouvelles technologies. Après, la réalité virtuelle est arrivée il y a peu de temps, mais en même temps, elle est quasiment partout. Et là, on est à deux doigts d'avoir quelque chose de quasiment parfait. C'est juste d'un point de vue technologique. Tu expliquais les problèmes de latence.
Oui.
C'est quoi ? C'est souvent des problèmes de microprocesseurs qui ne travaillent pas assez vite pour le moment.
Oui, c'est un petit peu de puissance, c'est tout. Ouais. Oui, mais dans peu de temps, en fait, on va... Sur les meilleures bécanes de jeu actuellement, dernier Far Cry d'Ubisoft ou autre, on voit l'image de loin, on ne sait pas si c'est du réel ou du virtuel, en fait. C'est des mondes virtuels. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que demain, la 3D aura un niveau de précision sur... les ombres, les rendus de texture, l'éclairage, etc. C'est passionnant, hein, la façon dont sont polichés aujourd'hui les jeux. On verra plus la différence entre le réel et le virtuel. Et donc, en fait, on pourra vraiment plonger la personne dans des mondes totalement fictifs.
Mais tu veux dire que, par exemple, là est sorti récemment le dernier Spielberg, Ready Player One. Oui. On va arriver très vite à ce genre de format.
Oui. Ouais.
Tu penses que c'est déjà, on y est presque dans 10 ans ?
Bah en fait, c'est juste une question de matériel, en fait. C'est de la définition, de la résolution, ouais, d'immersion. Mais ouais, on y est. Hein. D'ici 5 ans.
On y touche, quoi.
Oui, on y est tous.
Ouais, et moi, j'ai une question. C'est pas dangereux ?
Alors. Non, c'est pas dangereux à partir du moment où c'est volontaire, où c'est. Un monde virtuel, on a toujours joué au jeu, enfin, ouais, partie de cette génération.
Mais là, ce niveau où on arrive, où tu dis justement, on va plus faire la différence au moment entre le virtuel et le réel. Ouais. Enfin, si on met quelqu'un de fragile psychologiquement dans cet univers-là, c'est pas dangereux.
Alors, je peux te retourner. C'est utilisé en médecine aujourd'hui. Il y a beaucoup de serious games, ce qu'on appelle des serious games, sur l'apprentissage de tout un tas de choses, sur la lutte contre ses propres phobies. On expose des gens.
Situation.
Voilà. Et en fait, les gens qui sont arachnophobes, là, qui n'aiment pas les araignées, on les expose petit à petit à des araignées de plus en plus grosses. On les laisse s'approcher, etc. Et ça devient un outil. Et ils affrontent leur phobie et ils guérissent. Donc c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'en fait l'homme, hein.
C'est ça, d'accord.
Mais oui, ça demande évidemment à être. Faut savoir ce qu'on en fait, et il y aura forcément une forme de contrôle, ou pas que ce soit de la censure, parce que c'est des outils hyper créatifs. Mais moi j'attends ce moment où je vais être dans un monde virtuel et je vais avoir vraiment l'impression d'être dans le réel, en fait. Voilà, j'ai hâte.
On peut compter en tous les cas sur les sociétés du X pour mettre en avant toutes ces nouvelles technologies. Et dès que la réalité virtuelle sera au top, On sera au courant grâce à M. Dorcel. Donc là, on en est à deux doigts d'avoir quelque chose de parfait de la réalité virtuelle. Maintenant, il y a encore des inconvénients, à savoir le support, donc ce casque, plus les câbles, plus voilà, tous ces encombrements. Est-ce que là encore, d'après toi, on est à quelques années de basculer vers quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus léger?
Ouais, mais c'est sûr, là, tu as des lentilles en fait maintenant, donc on va mettre des lentilles, voilà, puis on aura des implants, enfin. Le futur, c'est on ne sait pas.
Lui, ça fait... Moi, ça me fait flipper. Lui, ça me fait marrer.
Moi, ça me fait marrer.
C'est mais Black non, Mirror, quoi. C'est...
Ouais, ouais. Non, mais non, ça mais... y est, on a eu les premiers écrans lentilles.
Alors, j'ai vu que Google, en fait, effectivement, travaillait sur des caméras en lentilles, en se basant sur une technologie extrêmement bête qui existe depuis 100 ans, l'espèce de caméra obscura, à savoir, vous êtes dans une pièce noire, vous faites un trou à la lumière, l'image rentre, elle se réfléchit à l'envers. Et on le répète ça sur une lentille fois des milliers de choses, et on crée une caméra où on peut enregistrer, on peut filmer, on peut... Enfin voilà, c'est, donc c'est quelque chose qui est je sais pas moi, peut-être à Noël 2020, je l'aurai en cadeau.
Par exemple, pour s'équiper comme là ici, avec un casque élégant, tout ça, c'est quoi pour que ça soit populaire là? Pour l'instant, on est à 2500 euros, 3000 euros.
En fait, la VR en soi, c'est 750, je crois, aujourd'hui, un Vive. Le problème, c'est qu'il te faut une station de course pour faire tourner. Donc, ça dépend si tu as une PlayStation, bah, c'est pareil, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher, tout est relatif.
Là, c'est 400 euros, voilà, quoi. Ouais,
c'est
ouais.
400 euros, c'est quand même des joujoux de luxe hein, par rapport à l'usage que tu peux en faire. Mais voilà, le Vive, c'est 750 euros. Par rapport à la technologie qu'il y a dedans, c'est pas fou, quoi. Mais il te faut une bécane, effectivement, qui coûte 1000-1500 euros. Bécane de gamer.
C'est comme
quoi.
Monter un peu son petit home studio pour les musiciens.
Exactement. Tu te fais plaisir, c'est ton petit device.
Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez là, sur la fin 2018-2019, quels seront les...
Alors, j'ai jamais le droit de parler sur des projets sur lesquels on travaille. Par contre, il y en a certains qui sont annoncés.
Voilà.
Ceux qui sont annoncés, voilà.
On est d'accord, voilà, j'ai essayé de t'avoir, ça va marcher.
Non, mais par contre, c'est vraiment une industrie... comme dans l'entertainment, on signe des
NDA. C'est très fermé.
Billets,
ouais, c'est secret.
Voilà.
Ouais.
On a Big Brother is watching us.
Ah bah oui, c'est sûr.
Voilà. Non, on a. On travaille beaucoup avec des sociétés, des studios de développement français. Donc il y a en développement Call of Cthulhu, voilà, qui va arriver. On fait beaucoup de jeux de sport. Il y a un jeu de tennis qui arrive. On a toujours fait beaucoup de jeux de sport historiquement. Et puis aussi des grosses licences côté Amplitude et Sega avec Arnaud Roy, qui est un compositeur d'ailleurs d'Angoulême, qui a bossé là sur Endless Space 2, donc qui sort, il y a des DLC, un jeu chez Sega. Voilà, plutôt des jeux gamer, Steam et console. Voilà. Notre cœur d'activité, nous, c'est les studios de jeux vidéo de développement entre 20 et 100 personnes. Qui en fait n'ont pas un studio son en interne et donc qui nous externalisent cette mission-là. Voilà, en gros.
Et est-ce que vous avez les mêmes problématiques que les gens qui font donc ce métier-là, à savoir réussir à refroidir les machines
Oui, alors nous, typiquement dans nos studios son, faudra passer. Nos studios son, c'est des boîtes dans la boîte, totalement insonorisées. Et donc tout ce qui fait du bruit est déporté. Donc on a nos bécanes dans ce qu'on appelle un nodal, une salle serveur. On sait tout par prolongateur, etc. Et on doit avoir un silence absolu. Donc on entend le bruit de ça, là.
Ah c'est, oui, des transfos. Bah oui, les transfos, voilà. Oui, le petit bruit électrique.
Le petit bruit, voilà.
Et au niveau du refroidissement des machines, puisque
il y a du water cooling, en fait, dans certaines machines.
Les développeurs de jeux vidéo étaient limités par le réchauffement des machines, en fait.
Oui, oui. Donc, c'est des chaudières, là, les cartes graphiques. Donc on les met sur deux étages, on ventile à fond. Il y a le water cooling qui est en gros la technologie qui est utilisée pour refroidir avec du liquide actuellement. Ça fait toujours un peu flipper de se dire qu'il y a de l'eau dans le moteur, mais bon, c'est de l'électricité, mais c'est des gels, un système de refroidissement liquide. Donc on a parfois des tours externes pour refroidir. Je ne suis pas un gros spécialiste des bécanes de gamer.
C'est très bien. On n'est pas là non plus pour entrer trop dans les détails, mais voilà, ce sont des petits sujets qui sont intéressants parce que ça engendre des problématiques auxquelles les gens ne pensent pas toujours.
Ouais.
Et c'est le cas également donc, avec ces machines-là. Et peut-être que la prochaine évolution des jeux et de la conception passera par l'évolution des machines, donc des ordis. L'ordinateur quantique, c'est pour bientôt?
Oui, regarde ton
ça
mobile.
Fait, ça fait 5 ans que j'en entends parler.
Il y a plein de technologies. Tu as des. En biologie mi-nano-cellulaire, ils font des tests pour utiliser en gros de la bio pour faire du processeur. Enfin, il y a plein de recherches qui sont faites pour justement miniaturiser et multiplier les puissances de calcul. Après, ce qui est bluffant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, avec un smartphone,
voilà,
tu as la puissance de calcul d'un PC d'il y a 5-6 ans, là, et tu fais des vidéos de fou, c'est des outils incroyables. Donc forcément, la miniaturisation, il y a une règle là, de multiplication de la puissance de calcul, c'est une curve là,
logarithmique,
c'est pas tout à fait linéaire, un petit peu exponentiel, voilà.
Donc aucune proportion, pour les non-matheux, il y a la proportion et il y a l'exponentiel.
C'est un peu plus.
On me dit qu'il reste 3 minutes d'antenne.
Oui.
Moi j'avais une petite question. Toi, pour l'instant, sur G4F, record, label, c'est quoi le morceau, la soundtrack dont t'es le plus fier aujourd'hui?
Ah, ça va être notre best-seller, c'est Fury. C'est la bande originale du jeu Fury, parce qu'en fait, c'était la première fois qu'on faisait travailler plusieurs compositeurs sur une BO de jeu. C'est un jeu indépendant fait par Made in France, par un petit studio d'indé. Enfin, ils sont 10, hein, c'est un studio indé. On a 16 millions de vues sur YouTube, plus de 2000 vinyles pressés vendus, on est obligé de represser en permanence, on explose tous les scores sur Spotify et c'est la bande originale de jeu la plus vendue et exploitée sur 2016-2017. On a eu des prix, etc. Donc c'est vraiment un process artistique assez fun où le développeur a donné un boss à chacun des artistes en lui donnant la consigne, la direction artistique. Et en fait, ils sont tous de la scène synthwave, donc c'est assez homogène. Et puis on reconnaît les pattes de chacun. Il y a une progression dans les choix, Et c'est que des gens qui, c'est des groupes qui n'étaient pas nécessairement dans le radar. Et puis des bons choix en fait. Je pense à Carpenter Brut par exemple. Quand il a signé le contrat, c'était pas encore les stars qui sont maintenant. Enfin, ça tourne, Carpenter. Et c'était le cas de Toxic Avenger, qui est là maintenant. Il est sur Motafukaz, et puis ça marche, ça tourne bien. Et puis des très bons échanges avec des artistes et la SACEM en plus, parce qu'on peut y passer la nuit aussi en légal, le droit, dans les jeux. Mais un deal SACEM signé avec 7 compositeurs, ça a été un casse-tête monumental, mais on a réussi et donc ça nous resserre aujourd'hui pour faire bosser des compositeurs SACEM qui étaient un peu bannis de l'industrie du jeu vidéo. Voilà. Ouais, ça sonne la fin là.
Et c'est du live, c'est la nef.
C'est du live.
C'est-à-dire que les gens crient.
C'est le verre de la nef.
En regardant un écran.
Devant un écran de streaming de la partie en VR de leurs potes sur Doom VR.
Comme quoi la réalité virtuelle procure des sensations à des gens bien vivants.
La réalité virtuelle procure des gens, procure des sensations à des gens dans le réel qui regardent les autres dans le virtuel. C'est complètement fou. Complètement dingue.
C'est incroyable.
Ils se croiraient au stade. Ils sont comme si c'était au stade.
Mais bien sûr.
Mais en même temps, moi, j'ai fait la Gamer Assembly à Poitiers. C'est complètement dément. Ouais. Moi, j'avais jamais vu une scène aussi grosse avec des équipes de gamers qui jouent. Je pense. J'avais l'impression que aller jouer deux fois Burning Nam Nam sur la scène. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Et alors.
C'est des rockstars. C'est quand le public se lance, c'est impressionnant.
Moi, mon fils à 12 ans, il était comme un ouf pour voir la finale de Rocket League. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais ça te dépasse, mais moi ça me dépassait, j'étais là. Enfin, je comprends pas tout, mais c'est dingue.
Oui.
Il se passe un truc de dingue, quoi.
Ah non, mais c'est sûr, il se passe un truc de dingue, la technologie avance beaucoup, l'homme n'a pas de limite au niveau de l'imagination.
Les mômes aujourd'hui ils disent qu'ils veulent faire gamer, tu vois. Toi, t'es professeur aussi.
Oui. Je suis le responsable de la filière son à l'Engmin. Voilà.
Je croyais que tu allais me dire que tu étais prof de FIFA 98.
Ouais, non.
Option penalty.
D'ailleurs, via l'Engmin, tu organises souvent des conférences.
On essaie d'animer. Voilà,
musique et jeux vidéo.
Exactement, d'animer au moins une fois par an des conférences en fait. Puis on fait des ateliers avec d'autres écoles. Il y a le Satis d'Aubagne qui sont plutôt spécialisés en composition à l'image de films. Donc on les fait venir, on les fait travailler avec des gens de l'interactif, là, de l'Engmin.
D'accord.
On fait des ateliers, on organise pas mal de choses sur l'année pour essayer de faire vivre Angoulême.
Très bien.
Merci beaucoup Vincent.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Ouais. Longue vie à cette radio.